Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. La manif pour tous de retour dans les rues de la capitale avant la présidentielle. Plusieurs dizaines de milliers de personnes mobilisées cet après-midi. Antoine Marette va nous expliquer leurs revendications, puis nous entendrons le témoignage de Lucie, une jeune fille de 18 ans qui a participé au contre-rassemblement organisé place de la République à Paris. Le gouvernement en pleine cacophonie sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, conséquence de la sortie de la ministre de l'Environnement ce matin dans le journal du dimanche. Ségolène Royal estime qu'il faut, je cite, « arrêter les frais ». Analyse politique de Frédéric Mettezo à suivre. La politique, c'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui a clôturé la première convention de la France insoumise ce midi. Enfin, à l'étranger, alors que les pourparlers sur Alep patinent, la Turquie avance dans son opération bouclier de l'Euphrate avec la reprise de la ville symbolique de Dabik aux djihadistes. Au sommaire de dimanche et après, Raphaël Bourgois.
Et ben on est en plein dans l'actualité, Anne Focambert, puisqu'on se demande, peut-il y avoir une surprise Mélenchon? Ce sera avec Christophe Aguiton, qui est chercheur en sciences sociales, membre du comité scientifique d'attaque, et Stéphane Elias, journaliste à Mediapart et co-auteur de Mélenchon, le plébien, c'était en 2012, chez Robert Laffont. Et puis en fin d'émission, on s'interrogera, alors que le GIEC se réunit demain à Bangkok, les scientifiques peuvent-ils être des militants du climat? Ce sera avec Hervé Letreux.
Merci Raphaël Bourgois, et avant de vous retrouver, nous irons au Monténégro, élection législative sous tension ce dimanche. Un complot vient d'être déjoué, nous dira notre correspondant Laurent Rouy. La manif pour tous est ressortie dans les rues de Paris cet après-midi. Les opposants au mariage homosexuel étaient 200 000 selon les organisateurs, 24 000 selon la police. Ils ont défilé depuis la porte Dauphine jusqu'au Trocadéro. Première manifestation d'ampleur depuis 2 ans. Le mouvement continue à demander l'abrogation de la loi Taubira. Mais à quelques mois de la présidentielle, c'est aussi l'opposition à la PMA et à la GPA qui a rassemblé les familles. Le reportage d'Antoine Marette.
Najat Vallaud-Belkacem, mais aussi Christiane Taubira ou encore François Hollande, voici les ennemis désignés de la manif pour tous. Ceux qui ont fait voter la loi légalisant le mariage homosexuel, ceux qui défendent la prétendue théorie du genre. Officiellement, la manif pour tous est apolitique, mais présidentielle oblige, la présidente du mouvement Ludovine de la Rochère espère bien peser dans les débats.
Nous sommes immensément nombreux en France à attendre avec une certaine impatience un véritable changement politique. Et bien ce changement, il doit démarrer aujourd'hui et il doit se faire véritablement pour l'intérêt supérieur de l'enfant.
Sauf que les politiques n'étaient pas nombreux cet après-midi dans le cortège de la manif pour tous. On a pu y croiser tout de même le candidat malheureux à la primaire, Hervé Mariton, ou encore Henri Guénaud, et de nombreux représentants ou proches du Front National, Gilbert Collard, Marion Maréchal-Le Pen ou encore Robert Ménard. Le FN qui est décidément bien vu de la manif pour tous, l'une de ses élues à Lyon, Agnès Marion, est même invitée sur le podium place du Trocadéro à prononcer un discours, ce qui provoque le courroux de certains manifestants comme Jacques Poirier.
Il est anormal que ce parti prenne la manif pour tous comme tribune. J'ai vu passer d'autres personnes du Front National, mais ils sont à leur place, pas cette personne-là.
Les manifestants ont pu compter sur un service d'ordre très conséquent, composé d'un millier de bénévoles, ce qui n'a pas empêché des fémènes de s'infiltrer dans le cortège. Elles ont tenté de jouer les troubles fêtes en exhibant leur poitrine.
On est là pour manifester contre la manif pour tous. C'est juste le fascisme français qui se réveille. Et nous, on est là pour dire qu'on ne veut plus les subir. Plus jamais les subir.
L'incident ne dure que quelques minutes. Le temps pour le service d'ordre de la manif pour tous d'expulser les fémènes sans ménagement, certains en les tirant par les cheveux. 6 d'entre elles ont été interpellées par la police. Selon la préfecture, 24 000 manifestants ont battu le pavé cet après-midi. Selon les organisateurs, ils étaient 200 000, soit 5 fois moins qu'au plus fort des manifestations de 2013.
Le reportage d'Antoine Marette. On a entendu à l'instant les fémènes. En réponse à cette nouvelle mobilisation de la manif pour tous, un contre-rassemblement s'est également tenu cet après-midi place de la République à Paris, événement intitulé Kiss In. Plusieurs centaines de personnes, dont nombre de couples gays et lesbiens, beaucoup de jeunes qui se sont embrassés. Réponse à la haine de la manif pour tous dont ils se disent victimes. C'est une initiative de Jackie Majda, le coordinateur du collectif Touche pas au mariage pour tous. Lucie est âgée de 18 ans et elle explique pourquoi elle a participé.
Le but là, c'est de montrer qu'en fait on s'en fout qu'ils défilent entre je sais pas où, la porte Dauphine et le Trocadéro, c'est ça ? qui défilent là. En fait, on s'en fout, nous on est là et on dit bah on va s'embrasser, on va s'aimer, on aime tout le monde. Et le but, c'est surtout un acte symbolique de résistance pacifique. Et c'est ça qui est important pour nous, et on reviendra autant de fois qu'il le faudra. Ça ne les concerne pas. C'est exactement le slogan « Ma vie, mon corps, mes choix, ta gueule ». Aujourd'hui, chacun a le droit d'avoir le genre qui lui correspond, d'avoir la sexualité qu'il veut, sans que personne n'ait le droit de s'opposer à ça. Et c'est pour ça qu'on vit dans une société qui est profondément patriarcale et sexiste. Et le retour de la manif pour tous, c'est surtout ça, en fait. C'est imposer à des personnes des choix qui ne sont pas les leurs. Puis ils doivent se préparer au fait que la PMA pour les couples de lesbiennes devra être adoptée un jour, et que l'adoption soit libéralisée pour toutes et tous. Il va falloir qu'ils s'y fassent. Ça, c'est sûr, personne ne reviendra en arrière sur cette loi. C'était le début. C'était le début d'un progrès social qui est nécessaire et qui est inévitable.
Des propos recueillis par Louis-Valentin Lopez. À Nantes, les élus du syndicat mixte aéroportuaire qui regroupe 22 collectivités locales favorables au projet de Notre-Dame-des-Landes appellent l'exécutif à recadrer la ministre de l'Environnement. Ségolène Royal qui, dans le journal du dimanche ce matin, alerte une nouvelle fois sur le risque d'évacuation de la ZAD. Mieux vaut arrêter les frais, estime la ministre. Problème pour faire ce recadrage, l'exécutif ne semble pas en phase et apparaît même fébrile sur ce dossier. Frédéric Mettezo.
Ah oui, un exécutif qui part dans tous les sens sur cette question. Manuel Valls, mardi dans Ouest France, expliquait que l'évacuation devait avoir lieu pour lancer le chantier. Mais jeudi, dans l'ouvrage de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, on apprenait que François Hollande était contre, persuadé qu'il n'aboutirait pas. Bien sûr, le débat technique n'est pas clos. Bon ou mauvais projet. Bien sûr, il y a la difficulté à évacuer simultanément la ZAD et la jungle de Calais. Mais le débat sur ce projet d'aéroport est devenu politique. La majorité socialiste est éclatée comme jamais. Ses ténors se déchirent publiquement, comme si les mauvais sondages persistants et les livres entretiens de François Hollande libéraient la parole de chacun. Cette rivalité Valls-Royal, déjà observée sur les bouts rouges, devient tactique. Et si François Hollande décidait de ne pas se représenter, qui pour reprendre le flambeau. Chacun occupe donc l'espace médiatique et martèle ses positions pour être prêt au cas où le jour venu.
Et le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, dénonce ce soir le double discours du gouvernement avec une Ségolène Royal qui, je cite, « passe de la pommade tout en laissant le Premier ministre trancher sur ce dossier du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ». Porté par de bons sondages, Jean-Luc Mélenchon a annoncé ce midi ses 10 priorités pour conquérir l'Élysée l'an prochain. Parmi celles-ci, le refus des traités de libre-échange, l'abrogation de la loi travail et l'instauration d'une règle verte, sorte de planification écologique pour protéger la planète. Il a clôturé donc ce midi la première convention de la France insoumise. Le récit de Sophie Delpont à Saint-André-les-Lilles.
Pendant une heure et demie, Jean-Luc Mélenchon décline son programme en partant d'un principe, la démocratie participative, dans l'élaboration de son projet présidentiel et au cœur d'une 6e République avec de nouvelles règles.
Le peuple doit être sans cesse renforcé dans l'exercice de la démocratie. Voilà pourquoi il y aura une constituante. La combinaison entre la stabilité des institutions et le maintien de la liberté individuelle tout le temps pour intervenir dans les affaires publiques. Ça, c'est le référendum révocatoire. C'est pas juste une technique pour virer des pourris. Bien sûr que ça sert aussi à ça.
Parmi les insoumis, il y a des membres du parti de gauche comme Jacques Soyer, 74 ans. Il a hébergé l'un des 1000 militants venus de toute la France.
Un insoumis qui venait de Nantes. C'est assez amusant parce que c'était quelqu'un qui votait plutôt Parti Socialiste, qui a été intéressé par l'approche de Mélenchon.
Quelques communistes dissidents, des syndicalistes aussi, et puis des jeunes comme Kylian, 28 ans.
C'est la première fois que je participe à un événement politique comme celui-ci. J'ai jamais été encarté dans aucun des partis. Je pense que la mondialisation, on a eu le temps de la tester, que ça ne fonctionne pas, que l'Europe est à la base un bel outil, mais que l'on a mal utilisé. Et je pense qu'il faut repenser la manière dont les pays européens doivent travailler ensemble pour se tirer tous vers le haut, pour avoir un vrai poids économique dans le monde.
En tout, plus de 130 000 personnes constituent aujourd'hui ce mouvement de la France insoumise.
Une semaine après les incidents de Viry-Châtillon dans l'Essonne, des policiers ont été pris dans un guet-apens la nuit dernière dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Les violences sont parties d'une fausse alerte à la voiture brûlée. Une centaine de personnes ont envoyé des cocktails Molotov et des projectiles sur les forces de l'ordre avant de s'en prendre à un bâtiment annexe de la mairie. Pas de blessés, pas d'interpellation pour le moment. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve salue le sang-froid des policiers mobilisés. Dans le Gard, la commune de Rodilly Milan a une nouvelle fois cristallisé les tensions entre partisans et opposants à la corrida. Cet après-midi, une grande fête taurine était organisée dans ce village complètement barricadé après l'expérience de violence en 2011. 200 militants du comité radicalement anti-corrida ont manifesté néanmoins près du stade de la commune. Il y a eu aussi des échanges de fumigènes avec les forces de l'ordre. C'est une ville qui occupe une place symbolique dans l'imaginaire djihadiste en Syrie. Les groupes rebelles syriens soutenus par la Turquie viennent de reprendre le contrôle du village de Dabik au nord-ouest du pays. Un succès qui s'inscrit dans l'opération Bouclier de l'Euphrate dirigée par Ankara et dont le double objectif est de repousser les djihadistes et de cantonner les Kurdes syriens au minimum d'espace. À Beyrouth, la correspondance de Laure Stéphan.
C'est une nouvelle défaite militaire pour l'organisation État islamique. Les djihadistes ont perdu le contrôle de Dabik, dans le nord de la Syrie. Cette localité n'a pas l'importance d'autres fiefs du groupe terroriste comme Raqqa, mais la chute de Dabik est symbolique à plus d'un titre. D'abord parce que la bourgade, qui comptait autrefois quelques 4000 habitants, occupe un rôle central dans l'idéologie et la propagande de l'EI. En se basant sur une prophétie ancienne, les djihadistes considèrent Dabik comme le site d'une bataille apocalyptique entre islam et christianisme, et un magazine de l'organisation terroriste porte le nom de cette localité. C'est une prise symbolique aussi parce que la chute de Dabik signifie une nouvelle victoire pour la Turquie depuis qu'elle a lancé au mois d'août son offensive bouclier de l'Euphrate. Ankara, longtemps accusée par ses adversaires avant cette offensive de jouer un jeu trouble avec l'EI, appuie en effet les rebelles syriens qui ont défait les djihadistes dans la bataille de Dabik. Ce sont eux aussi qui ont délogé les extrémistes d'autres localités de la zone au cours des dernières semaines. Un tournant alors que jusqu'à l'été, ce sont les Kurdes du pays grec D que la Turquie cherche aussi à repousser de sa frontière, qui était à la pointe de l'offensive contre l'EI dans le nord de la Syrie. Au cours des derniers jours, les rebelles soutenus par Ankara avaient coupé les lignes de ravitaillement vers Dabik, où, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 1000 combattants djihadistes de l'EI ont livré bataille.
Toujours concernant la Turquie, un kamikaze s'est fait exploser en début d'après-midi lors d'un raid des forces de sécurité contre une cellule présumée de l'État islamique. Explosion à Gaziantep, non loin de la frontière avec la Syrie. Elle a fait 3 morts et au moins 9 blessés. En Irak, c'est la dernière ville contrôlée par l'État islamique. La bataille de Mossoul devrait débuter dans les prochains jours. Elle se concrétise avec des dizaines de milliers de tracts largués cet après-midi sur la ville. Les autorités de Bagdad demandent aux habitants de rester chez eux. Des élections législatives sous tension entre l'Ouest et la Russie au Monténégro. Un complot vient d'être déjoué par les autorités. On l'a appris cet après-midi. Une vingtaine de ressortissants serbes ont été arrêtés la nuit dernière. La police prétend qu'ils avaient l'intention de s'attaquer aux institutions et aux représentants de l'État. À Belgrade, les précisions de Laurent Rouy.
Les élections législatives de ce dimanche au Monténégro ressemblent à une farce. Toute la journée, les incidents se sont multipliés dans plusieurs localités. À Rojaïe, à l'est, une bagarre générale impliquant des candidats a éclaté. Plusieurs dizaines de policiers ont dû intervenir. À Niksic au nord, le vote a été brièvement interrompu à cause de tentatives d'achat de voix en pleine rue. Ailleurs, des inconnus auraient tenté de louer les cartes d'identité des passants non loin des bureaux de vote. Le site internet du gouvernement a aussi été attaqué par des hackers et la police a annoncé avoir arrêté un groupe de 21 Serbes accusés de terrorisme qui auraient préparé des attaques contre les institutions. À la tête du pays, Milo Djukanovic, au pouvoir depuis plus d'un quart de siècle, est le plus ancien dirigeant d'Europe. Fréquemment accusé de liens avec le crime organisé, il avait fait l'objet d'une enquête pour trafic de cigarettes en Italie. Djukanovic se dit pro-européen et pro-OTAN. En face, une opposition désorganisée et qui n'a jamais vraiment percé veut rétablir les bonnes relations avec la Serbie voisine et s'oppose à l'entrée du pays dans l'OTAN. Aussi, Djukanovic essaye de faire de ces élections un choix entre de soi-disant pro-européens et pro-russes, alors que les vrais problèmes du pays, à savoir la pauvreté et la corruption, ne sont pas à l'agenda.
La météo de votre lundi matin sera pluvieuse sur une bonne partie du pays, sauf sur la Corse et les pointes bretonnes et normandes. Les températures iront de 14 degrés à Lille à 20 degrés à Nice.